On est prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bienvenue dans la tactique, aujourd'hui le 17 mai 2024, et donc on fait une émission sur le peuple kurde hein, dans sa grande généralité. C'est une émission où on va apprendre un petit peu l'histoire, les problèmes, les espérances, s'il y en a, mais on en discutera donc du peuple kurde aujourd'hui. Alors pourquoi faire une émission sur le peuple kurde dans une émission d'attaque ? Dans un premier temps, on pourrait penser que cela ne rentre pas dans les fondamentaux de l'association, dans un premier temps seulement, parce que si on y réfléchit, on peut observer que c'est tout le contraire, car voici les questions que l'on va traiter au fur et à mesure de l'émission. Donc, s'agissant des Kurdes eux-mêmes, d'abord, donc, qu'est-ce qu'un peuple, une nation, un État ? S'agissant des pays qui entourent le Kurdistan, on va pointer donc, les dictatures ou la question de la colonisation, donc sur le peuple kurde, et enfin, donc, s'agissant du Rojava, celle du socialisme, du féminisme et d'autres encore. Et on le fera grâce donc aux intervenants qui vont se présenter tout de suite.
Alors bonjour, Ferhat. Ferhat, kurde d'origine. Kurde d'origine et natif de Reims, porte-parole de la communauté démocratique kurde de Reims.
Bonjour, Supi, donc également franco-kurde, né au Kurdistan et venu en France à l'âge de 6 ans.
Okay, bienvenue à vous et merci d'être venu. Et on a Sylviane avec nous aujourd'hui pour aborder la question. Quand on parle de Kurdes, parle-t-on de nations, de peuples, de territoires, c'est ça ?
Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc on va poser la question d'ordre très général avant de rentrer dans les détails. Donc quand on parle des Kurdes, donc est-ce qu'on parle d'une nation, d'un peuple, d'un territoire ?
Quand on parle des Kurdes, on parle avant tout d'un peuple. Je pense que le terme peuple a toujours été adapté et que récemment seulement on peut parler de nation, c'est-à-dire d'une conscience d'appartenir à une nation. Bien qu'on n'ait pas d'État-nation, et d'ailleurs ce n'est pas ce que l'on recherche, on peut dire que les Kurdes sont aujourd'hui une nation parce qu'ils sont engagés de manière assez importante en termes de population dans le souhait d'avoir l'expression de leur identité sur le territoire où ils vivent. Et puis, lui, c'est aussi un territoire qu'on appelle le Kurdistan, qui n'est pas peuplé uniquement que de Kurdes. Il est peuplé de plusieurs peuples autochtones et d'immigration récente. Et donc, le Kurdistan, c'est un territoire un peu plus grand que la France ou l'Ukraine. Et qui part de la Méditerranée près de, on va dire, Mersin, Adana, et qui fait un arc de cercle jusque pas loin du golfe Persique. Donc il est surtout montagneux, et d'ailleurs c'est la caractéristique géographique principale du Kurdistan et du peuple kurde, c'est de se trouver avant tout dans un territoire aux deux tiers montagneux.
Il faudrait peut-être aussi préciser que le Kurdistan s'étend sur 4 pays.
Ah oui, bon d'accord.
Parce qu'on est dans les géographies.
Ouais. En fait, le territoire en lui-même, si on prend les frontières géopolitiques actuelles, ouais, elles s'étendent sur 4 pays. Mais aujourd'hui, quand on parle du territoire, voilà, pour appuyer un peu les propos de Supi, on pourrait apparenter le Kurdistan, on pourrait même pas apparenter, le Kurdistan, c'est la Mésopotamie. Le Kurdistan, c'est ce qu'on nous a appris lors de notre cursus scolaire le plus primaire, à travers le croissant fertile. C'est-à-dire qu'on est le territoire qui borde le Tigre et l'Euphrate au Moyen-Orient.
Alors voilà pour le territoire. Pour l'histoire, rapidement, il y a peut-être des grandes dates. Je sais qu'on repère le peuple kurde ou une entité kurde dès l'Antiquité, mais donc sans, enfin, Peut-être que vous connaissez les grandes dates ou les grands mouvements. Donc,
alors, il y a...
Les grandes ruptures, pardon.
Il y a plusieurs débats sur l'origine du peuple kurde et sa formation. Ça remonte souvent au premier siècle de l'histoire, c'est-à-dire de l'écriture. C'est-à-dire que sur les tablettes sumériennes, on a ce terme-là qui est utilisé. Et bon, moi, ce que j'en ai compris, c'est que ce serait le terme kurde apparaît donc plus de 2000 avant Jésus-Christ comme terme pour parler des habitants de la montagne, pour dire les montagnards. Donc à partir du sumérien et donc en langue akkadienne, donc qui est une des plus anciennes langues et qui sont à l'origine de la création de l'écriture. Alors ça, c'est difficile d'affirmer vraiment, parce que bon, même les plus grands spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Là où on peut être sûr, c'est que la langue que parlent les Kurdes aujourd'hui, c'est une langue différente du persan, même si elles sont dans la même famille de langues, et qui semble être issue de la langue mède, donc, qui était un peuple cousin des Perses, et dont on n'entend plus parler à partir du moment qu'on parle des Kurdes, et qu'on ne parle plus de mèdes. Donc, la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que la langue kurde a été transmise par les mèdes. Après, le peuple kurde existait dans le sens où il y avait un terme générique extérieur pour les appeler, pour les nommer, donc le terme de kurde dans la prononciation akkadienne. Ça c'est les origines lointaines. Après les mèdes, bon, les mèdes, c'est à partir de 9e, 8e siècle, et la grande date importante dans l'histoire kurde, qui est le début du calendrier kurde, c'est 612 avant Jésus-Christ. En 612 avant Jésus-Christ, les Mèdes, associés aux Babyloniens, ont vaincu la capitale assyrienne de Ninive. Donc c'est le début d'une nouvelle période de l'Antiquité, où les Mèdes au nord et les Babyloniens au sud se partagent le Moyen-Orient. Les Mèdes sont, moins d'un siècle plus tard, remplacés par leur cousin perse, donc, dont le premier empereur s'appelait Cyrus, qui était de mère mède et de père perse. Et ensuite, bon, on a parlé d'empire perse, on n'a plus parlé même s'il était médo-perse pendant plusieurs siècles au début, après on a parlé d'empire perse. Donc, ça, c'est 612 avant Jésus-Christ. Ensuite, une grande étape, l'islamisation. Donc on a une longue période irano-grecque sur plusieurs siècles, pratiquement un millénaire. Et à l'islamisation, on a des sources beaucoup plus avérées qui parlent des Kurdes. Donc on parle de leur résistance à l'islamisation, puis à leur activité en tant que musulmans. La date le 11e siècle est également important, puisqu'il y a, à ce moment-là quatre États kurdes dominés par des dynasties kurdes sur un espace encore plus grand que le Kurdistan actuel. Ensuite, la date importante est la fin du XIIe siècle, exactement 1187, où quelqu'un se fait connaître dans l'histoire, c'est Saladin, donc Saladin Ayyubi, qui est très connu en Occident pour ses valeurs chevaleresques dans son combat au moment des croisades contre les croisés. Et donc, il était kurde. Et la grande majorité de son armée était kurde à ce moment-là. Et donc, c'est la dynastie fondée par Saladin, la dynastie Ayyubide, a régné plus d'un siècle sur le Moyen-Orient. Voilà, ça c'est les dates anciennes. Les dates récentes, ben, ça commence, c'est, on va dire, l'histoire douloureuse. C'est-à-dire que ça commence par une grande bataille, la bataille de Chaldiran en 1514, entre l'Empire perse séfévide et l'Empire ottoman. Tous les deux se disputent le Kurdistan et l'Azerbaïdjan pendant très longtemps. Et en 1514, la plupart des Kurdes étaient dans les rangs de l'armée ottomane. Et donc, les Ottomans ont gagné contre les Séfévides. Ce qui fait que les Kurdes ont accepté de faire partie de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman les a acceptés en leur laissant une autonomie, une très large autonomie, parce que pour certains, ils rendaient aucun compte à l'empereur pendant très longtemps. Et donc, c'est toutes les principautés qu'on appelle les beylikas, donc les beys, les seigneurs locaux, se sont unis et ont été reconnus par l'Empire ottoman. Après, bon, il y a une partie qui est au sud-est du Kurdistan, qui faisait partie de l'Empire perse, et c'est la première fois que le Kurdistan se fait partager entre deux puissances de manière sérieuse. Donc entre l'Empire ottoman et l'Empire perse à partir de 1514, et ça a été confirmé à un traité en 1639, le traité de Qasr-e-Shirin entre les deux empires. Voilà, c'est la première division du Kurdistan, donc c'est pour ça que je parlais de période douloureuse. Ensuite, on arrive bon an mal an au XXe siècle. Voilà. Donc la date importante, c'est 1920. C'est la fin du Kurdistan divisé entre les deux empires. Parce que on a la création de quatre États-nations, donc l'Iran, la Turquie, l'Irak et la Syrie, après, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1920, il devait avoir, entre les pays créés, il devait avoir un Kurdistan, il y a une Arménie beaucoup plus grande que celle actuelle, donc donc c'était en 1920, c'était à Sèvres, donc près de Paris. Le traité a été signé par l'Empire ottoman et les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, qui prévoyait un Kurdistan sur une grande partie du Kurdistan actuel. Mais trois ans plus tard, le pouvoir turc a changé, c'est-à-dire que l'Empire ottoman n'existait plus et c'était la République de Turquie, fondée par Mustafa Kemal Atatürk. Et là, Atatürk a obtenu de refaire un traité qu'on appelle le traité de Lausanne, qui s'est fait en Suisse, et qui, cette fois-ci, revenait complètement contre ce qui a été écrit en 1920. Donc les Kurdes, en fait, sont fait voler leur projet de création d'un État. Et depuis donc cette époque, les années 20, les Kurdes se retrouvent à se battre dans les quatre parties du Kurdistan pour avant tout leur autodétermination et le respect de leur culture et de leur identité. J'irai jusque la date de 1978. C'est-à-dire que se cristallise d'abord en Turquie un mouvement kurde, on va dire, fédérateur et puissant. C'est le mouvement du Parti des travailleurs du Kurdistan, donc qui a été créé le 27 novembre 1978, et qui ensuite s'est étendu aux quatre parties du Kurdistan, et qui, avec la collaboration ou la rivalité avec d'autres mouvements, a amené la question kurde à l'état où elle est aujourd'hui, donc à un état dont on va parler. Excusez-moi.
La partie des travailleurs kurdes, c'est le PKK.
Oui, donc en kurde, Partia Korkarin Kurdistan, partie des travailleurs du Kurdistan. On précise toujours dans les parties kurdes, Kurdistan, plutôt que kurde, parce qu'on a le sentiment profondément ancré que le Kurdistan c'est un territoire où il y a plusieurs identités. Les Kurdes, ils sont peut-être la majorité, mais ils ont toujours été accueillants et très tolérants vis-à-vis des différences, qu'elles soient ethniques ou religieuses. Et on a toujours pensé que le terme de Kurdistan était plus rassembleur en parlant du territoire plutôt que uniquement d'un peuple, parce qu'il n'est pas le seul sur ce territoire.
Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machine, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines, et si c'était comme ça plus belle. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si c'est pas vrai, mais je t'aime quand même. Tout nous séparera, ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
Alors avant de rentrer dans l'actualité, puis la partition dans les quatre états que t'as mentionnés, donc je suppose qu'il reste quand même donc une culture commune, puisque vous avez parlé de nation et de peuple. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez relever les grandes valeurs ou les grands principes de la culture kurde, et on verra ensuite l'actualité proprement dite.
Question piège. Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est un certain féminisme, c'est-à-dire que de tout temps, on a de nombreux témoignages de la place particulière des femmes dans la société kurde. Une place qui n'était pas du tout identique à celle des peuples voisins. Donc, on peut parler de deux choses. Des femmes kurdes célèbres dans l'histoire et des témoignages sur la place générale des femmes dans la société. Je parlais quand même d'Hélène d'Adiabène, parce que Hélène d'Adiabène, c'était une reine donc du royaume d'Adiabène, qui est actuellement la région entre Dohuk et Erbil au Kurdistan du Sud, donc d'Irak. et qui était donc de religion juive. Et elle est très célèbre pour avoir soutenu les révoltes juives contre les Romains. Et d'ailleurs, elle est enterrée à Jérusalem. Ensuite, donc, c'est cette place, ces femmes célèbres dans l'histoire kurde, leur histoire continue jusqu'à nos jours. Je parlerai de Gülten Kışanak, qui était maire de la grande ville d'Diyarbakır, qui vient juste d'être libérée cette nuit, de manière provisoire, parce qu'elle a eu une lourde condamnation, donc en Turquie. Voilà. Ensuite, la place des femmes kurdes, ben, de très nombreux témoignages, par exemple de voyageurs européens, de consuls, de diplomates, de militaires, qui font remarquer, il y a déjà plusieurs siècles de ça, qu'ils remarquaient que la femme kurde avait une place beaucoup plus importante qui lui était donnée dans les relations avec... l'extérieur de la maison, avec les étrangers quand ils se rendent chez eux, et qui participent souvent à la vie de la communauté. Chose qu'on retrouvait très peu dans les populations autour. Et également donc des femmes qui avaient des postes de dirigeantes et de combattantes à de différentes périodes de l'histoire. Bon, j'ai parlé de la place des femmes chez le peuple kurde, puisque l'importance de cette caractéristique culturelle est qu'elle elle a une grosse influence sur l'actualité. Ensuite, je parlerai d'une valeur kurde qui je pourrais appeler du respect de la parole donnée. C'est également une chose, une valeur que l'on retrouve dans beaucoup de témoignages étrangers. C'est-à-dire qu'un Kurde est connu pour respecter la parole qu'il a donnée, quelles que soient les circonstances. Il donne une très grande importance à cela. Bon, je ne veux pas essentialiser les Kurdes, dire qu'ils sont tous comme ça, mais ça a été rapporté à très nombreuses reprises au cours de l'histoire. Et que, disons, en dehors de la parole donnée, la personne kurde pourrait vous faire du mal, mais à partir du moment où il a donné sa promesse, il respectera ce qu'il a promis. Et ça m'a toujours épaté de le voir dans les témoignages, parce que c'est quelque chose dont j'ai été témoin par rapport à la parole donnée. Une dernière caractéristique, c'est la tendance des Kurdes à la division. Culturellement, les Kurdes sont toujours pris chacun pour, on va dire, pour un seigneur, pour la personne qui a le droit de citer. Ce qui fait que les Kurdes, souvent, acceptent difficilement d'être dirigés par des Kurdes, en se disant pourquoi ce serait un autre Kurde que moi. Alors, et ce qui a conduit à ce qu'ils soient dirigés par des gens qui ne sont pas kurdes. Et jusqu'à l'histoire récente, vous voyez, ils sont dirigés par les Turcs en Turquie, les Perses en Iran, les Arabes en Irak et en Syrie. Et voilà, c'est le problème de la division des Kurdes, ça va de pair avec ce caractère de difficulté à s'unir pour un projet commun. Et si j'ai parlé tout à l'heure d'une date importante, de la création du Parti des travailleurs du Kurdistan, c'est parce que c'est la première organisation contemporaine, la première organisation de l'époque moderne, à réussir à rassembler autant de Kurdes en nombre et en catégorie de population.
Voilà. C'est assez étonnant. Je trouve que... Moi, je pensais à une autre valeur, la tolérance. Quand tu nous parles d'une femme rabbin, ça me paraît quand même vraiment un acte de tolérance. Et cette femme rabbin, elle est reconnue par les Kurdes. Donc, J'imaginais que tu allais nous citer la tolérance.
Bah, en fait, je l'ai dit dès le départ. Parce que quand le fait qu'ils on se, rien que dans le nom des organisations, on ne dit jamais Kurdes, on dit Kurdistan. Parce qu'on estime que tous ceux qui y habitent ont droit à la parole. Et oui, c'est grâce à cet esprit de tolérance des Kurdes. C'est vrai, c'est une valeur qu'on doit souligner.
Mais c'est en même temps contradictoire avec le fait de... Enfin, contradictoire, oui et non, mais avec le fait de ne pas vouloir être dominé par un autre Kurde.
Alors, c'est vrai, mais bon, en même temps, ouais, c'est vrai, dans l'histoire, on a eu souvent, même dans les familles aujourd'hui, vous avez souvent des conflits entre gens très proches, des frères, des cousins, alors qu'on est... pour aller dans cet esprit de tolérance, on est très très hospitalier envers les autres. On accueille celui qui est différent. On accueille l'étranger, le voyageur. Et par contre, ça c'est commun à l'ensemble des peuples du Moyen-Orient. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est une valeur commune à tous les peuples de la région et les Kurdes donc également. Et bon, c'est peut-être contradictoire avec le fait qu'ils n'arrivent pas à s'unir entre eux ou ces paliers, je ne saurais pas quoi dire là-dessus.
Moi, j'aimerais rebondir là sur cette contradiction. En fait, c'est dû au fait, tout simplement, qu'en Mésopotamie, au Moyen-Orient, quand on parle de famille, la tendance est plutôt à la tribu. Je m'explique. Les noms de famille sont apparus que très tardivement, au début du XXe siècle. C'est-à-dire que avant l'apparition des noms de famille, on était fils d'un tel, et lui était fils d'un tel, et lui était fils d'un tel. Et donc, de cette façon, on avait des tribus. Pour en citer quelques-unes, il y a les Bruki, il y a les Djellali, et voilà. Et quand on parle de tribus, on parle parfois de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes. Et ça a créé justement, ça a été très sectaire en fait. On restait entre tribus et de fait, on n'acceptait pas justement que ce soit un autre Kurde qui pourrait être issu d'une autre tribu. Et voilà, on reste quand même sur une mentalité archaïque du Moyen-Orient.
Je dirais que cette mentalité a été également le cas pour l'Europe très longtemps et que il a fallu au moins deux guerres mondiales pour qu'on s'assagisse en Europe. Alors, espérons juste qu'il n'en faille pas la même chose au Moyen-Orient pour arriver à plus de sagesse.
Ok, très bien. Donc, on va rentrer dans l'actualité. Donc l'actualité, c'est une partition du Kurdistan donc, dans quatre États différents. Donc on l'a dit tout à l'heure, je vais quand même le répéter puisqu'on va discuter de ça. Donc il y a la Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Sachant que donc si j'ai bien compris, hein, parce que je suis pas spécialiste donc de la question kurde, il y a trois régions plus ou moins autonomes, on va dire ça comme ça. Enfin vous expliquerez un petit peu ce qu'il en est. Donc en Iran, enfin autonome, oui, on va le dire comme ça dans un premier temps. Donc en Iran, en Irak et donc en Syrie. Tout à l'heure on parlera peut-être plus précisément donc de la Rojava.
Du Rojava.
Et donc,
juillet.
Par contre, en Turquie, donc, il n'y a pas de région vraiment autonome. Donc, cette division-là, vous pouvez en dire quelques mots sur chacune des de ces partitions-là.
Alors, comme il a été évoqué tout à l'heure, ces quatre parties sont apparues avec les accords de Sykes-Picot. 1923, le traité de Lausanne. Un traité qui a complètement mis à l'écart les Kurdes et fait en sorte que les Kurdes du Kurdistan, parce que la région s'appelle le Kurdistan, et ça, c'est pas nous qui le disons, l'histoire dit la même chose également, que les Kurdes, on fait en sorte que les Kurdes soient assimilés. Le but, c'est d'en finir complètement avec les Kurdes en les assimilant à la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie.
Tu parlerais d'une purification ethnique, non ?
Je suis pas dans la tête des signataires de Lausanne, mais aujourd'hui avec le recul, ouais, je pense que c'était le but. On a un nouvel environnement géopolitique au Moyen-Orient. On est en 1923, la République de Turquie vient d'être créée. La Syrie est sous protectorat français.
C'est de la colonisation, les autres.
Et on est purement dans de la colonisation, c'est exactement ça. Et quand on colonise, on assimile les autochtones. C'est-à-dire que de force. Moi, je ne suis pas né en Turquie, au Kurdistan du Nord. Mais mon ami ici, Supi, lui, est né. Et il serait resté, peut-être qu'on l'aurait battu pour qu'il puisse dire « je suis turc aujourd'hui ». Et c'est cette mentalité-là qui a perduré, et qui perdure depuis 100 ans. Parce que on a fêté le centenaire de Lausanne. Le centenaire du traité de Lausanne l'année dernière. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que 100 ans après, il y a toujours un peuple morcelé en quatre, par quatre frontières. On parle de peuple, on reste dans le terme de peuple, pour revenir essentiellement sur les Kurdes, si vous voulez bien. Ils sont coupés en quatre. On a des membres d'une même tribu, puisque à l'époque, on parlait encore de tribu en 1923, qui sont de part et d'autre des frontières. Et aujourd'hui, Jean, tu faisais état de trois zones autonomes. Moi, aujourd'hui, j'en compte une officiellement autonome. Celle qui est en Irak du Nord, oui, exactement, au Kurdistan du Sud. Et c'est, la zone de Syrie, ça a été reconnu par certains et c'est toujours, ça ne l'est toujours pas par la majorité. Même si on accepte de les prendre pour...
Ah, d'accord. OK. Non, je voulais juste dire, on peut énumérer la situation dans les quatre États en fonction du niveau d'autonomie. En Irak, le Kurdistan est devenu autonome de fait après la guerre du Golfe, quand Saddam Hussein a perdu la guerre contre les Alliés. Et à ce moment-là, il y a eu un grand exode kurde parce qu'on avait gagné contre Saddam Hussein, mais on l'avait laissé l'armement suffisant pour mater les rébellions des Kurdes au nord et des chiites au sud. Ce qui fait que les Kurdes, comme ils ont subi des bombardements au gaz chimique les années précédentes, ils ont tout de suite pensé, et ça pouvait d'ailleurs arriver, qu'ils auraient été attaqués à l'arme chimique de nouveau. Et donc, ils ont fui. Il y avait au moins 2 millions de personnes qui ont fui en plein hiver dans les montagnes. Et donc, c'est cette image d'exode de tout un peuple qui a fait que les puissances occidentales ont mis en place une zone de non-survol au-dessus du 36e parallèle, ce qui faisait que l'armée de Saddam Hussein ne pouvait pas aller au Kurdistan. Et ça, les Kurdes sont devenus autonomes de fait à ce moment-là, jusqu'à la guerre d'Irak, donc en 2003. Et après cette guerre, il n'y avait plus de Saddam Hussein au pouvoir. Et la nouvelle constitution irakienne reconnaissait l'autonomie du Kurdistan, donc une région fédérale au sein de l'État fédéral irakien. Donc c'est officiel, elle fait partie de l'Irak, mais elle est autonome. Même le Québec, les Québécois, en étudiant la situation du Kurdistan, trouvent que l'autonomie du Kurdistan, elle est bien plus avancée que celle du Québec. Donc il y a une armée, il y a un gouvernement, il y a un président, il y a un parlement, mais c'est d'une région autonome.
إنساني أنغو بي هلبستي هاو بدنغو و تنبورا خود بيجم نفيس يا مموستا جگر خويني و ب آمادا كريا مجي هلبست آتي حاضر کرن از هيوی دارم گشونده او هلبستا جهلا پر کسی ده بخوندن لو هلبست ده تاریخ ماتریالیزمی ده روشا کردستان گل کردستان تین زمان کینم یوتکارو کارکر گندی و رنجبر همو پرولتر گل کردستان دجمن خونخوار خلطو کول دار جروم جفر رنگ جرو جیم پرتنگ دو کشتن و جنگ پاراس 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 مهب رو جلا کینم هی 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 کینم 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 گلی سر افراز خوش مروغ نه هرچو خوغ لیچه بکم بیشر دجمن نا چه در بابو کالین مه دخوستن سربست نا خوازم بجین تابت بندست
aşe jardara. Oh 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 oh, Kurdistan firot wan terne yara. Oh 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 oh, bune mezhebdar, bune ol perest. Oh 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 oh, bune paşveru bi tesbihu xisht. Şikan limne seru pişt. Oh 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 oh, medan bin ligar devlet muhebun. Oh 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 oh, bun düşmini he ferçe ferçe bun. Oh 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 oh, taku Kurdistan. Kurdistan jaru perişan ketebindistan. Ketin khawi, ketin khawi. Ketin khawa zulmu zori, ketin khawa bindestiye. Raketin Raketin yek caran seri hurakirin Le düşmün seri zujikirin Yek carna behez seri hurakirin Le dne yar seri zujikirin Le lvi khaki Lvi erdi toven jiyane cari hati çiyandın Ev erdi jiyane ye Germ dibe, sar dibe Dikele, dikele, dipjikine Bruske davi tavan hiltine Rona hidke rojel velat hildine Her vakin kaval serhu pektine Nishtman perveran dueldine
L'autonomie, on va dire, de moindre...
De fait.
Ouais. Bon. Alors ensuite, l'autonomie, on va dire, différente de celle du Kurdistan sud, le Kurdistan d'Irak, c'est l'autonomie du Kurdistan de Syrie, que l'on appelle Rojava. La différence entre les deux, c'est que le Rojava n'a pas d'autonomie reconnue dans la constitution syrienne, et elle n'est pas non plus reconnue, encore moins par les autres pays, que ce soit les voisins ou plus lointains. Son existence ne tient qu'à une chose, on va dire la défense farouche des Kurdes de leur pays contre l'invasion par Daesh. Donc Daesh, les djihadistes de Daesh ont essayé de s'emparer du Kurdistan. Et les Kurdes ne l'ont pas laissé faire. Donc les Kurdes des quatre parties, donc aussi bien de Syrie que des trois autres, se sont unis de manière historique pour empêcher l'invasion du Kurdistan d'Irak et du Kurdistan de Syrie par Daesh. Ils ont réussi, avec l'aide des Occidentaux, à libérer les zones prises en Irak et en Syrie par Daesh. Et au Rojava, les Kurdes donc ont gagné une légitimité par ce combat. Ils ont été reconnus dans ce qu'ils ont fait par les puissances occidentales, mais ils n'ont aucun soutien pour pouvoir vivre selon leur souhait de vivre dans une région démocratique. Le risque actuel de Rojava, c'est que soit ils retournent dans le giron de l'État syrien et qu'il n'y ait plus leur mot à dire et que les gens du Rojava fassent partie d'une Syrie qui est une dictature. Et l'autre, c'est de se faire envahir par la Turquie, tout simplement, et d'être annexé, comme ils ont annexé un des cantons kurdes de Rojava, celui d'Afrin, en 2018. Et c'est le but déclaré de Tayyip Erdogan, qui ne s'en cache pas du tout, au contraire, qui le dit sur tous les toits. Le troisième niveau d'autonomie, c'est en Iran. En Iran, sur 15% du territoire kurde d'Iran, il y a une région, une province, c'est une province du Kurdistan, qui est reconnu, mais bon, c'est comme vous dire le pouvoir du département de la Marne. Voilà, ça, c'est à peu près ça. Donc la seule chose, c'est que le nom de Kurdistan est accepté. Alors cette reconnaissance minimale de la réalité kurde, de l'existence de Kurdes en Iran, est encore loin d'être acceptée en Turquie. Donc c'est le dernier pays où se trouve la plus grande partie du Kurdistan. Donc les Kurdes sont aux alentours de 45 millions, si on fait une moyenne des différentes estimations. Et la grande majorité, donc pas loin de 25 millions, se retrouve en Turquie. Mais c'est paradoxal, parce que c'est la plus grande population kurde, c'est la plus grande partie du Kurdistan, mais c'est celle qui a le moins de souveraineté. Elle est complètement niée, c'est-à-dire que l'existence d'un peuple s'appelant les Kurdes est complètement niée par la Turquie depuis sa fondation. Et également, le nom du Kurdistan a été interdit autant que le nom kurde. Et la langue kurde a été interdite pendant des dizaines d'années au cours du XXe siècle. C'est seulement en 1991 que la langue a été tolérée à l'oral. Aujourd'hui, la situation actuelle, c'est qu'en Turquie, malgré une population d'au moins 20 millions de personnes, il n'y a aucune école publique qui enseigne à des enfants d'âge scolaire dans leur langue. Et c'est la base du problème kurde, ce qu'on appelle le problème kurde. C'est-à-dire qu'un État, donc la Turquie, va jusqu'à interdire de parler une langue et qu'après des années de lutte armée, il n'est toujours pas accepté qu'elle soit enseignée. Aujourd'hui, elle est enseignée au niveau universitaire de manière symbolique pour pouvoir dire que, vous voyez, on n'interdit plus la langue kurde. Mais avec tous les obstacles qui existent, on en arrive à une situation où un enfant qui naît au Kurdistan de Turquie ou ailleurs en Turquie n'entend parler kurde que par sa famille, s'ils ont encore gardé l'utilisation de cette langue, et que tout le reste, tous les domaines de sa vie, que ce soit la télévision, que ce soit l'école, que ce soit les médias, la société, tout le monde, tout est fait en turc. Donc, les Kurdes ne sont pas contre le fait d'utiliser le turc, mais ils trouvent cohérent et légitime de pouvoir au moins être bilingue et d'avoir un droit de cité de la langue kurde, que soit égalité ou pas avec le turc, puisque le turc pourrait très bien être la langue de tout le pays et le kurde, la langue du Kurdistan, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde, comme par exemple la Belgique, la Suisse. Et c'est des exemples qu'on pourrait suivre pour le Kurdistan, mais qui sont toujours, mis de côté par les différents États qui dominent le Kurdistan, dont la Turquie, et qui simplifient la situation en fait, c'est où vous soutenez l'État turc, où vous soutenez les terroristes. C'est-à-dire que la moindre expression d'une volonté d'autodétermination, c'est-à-dire d'expression d'une identité kurde ou de souhait politique d'avoir des droits en tant que kurde, est tout de suite assimilée à du terrorisme. À tel point qu'Erdogan récemment a parlé de terroristan, en allusion au terme de Kurdistan, en disant que c'est un territoire de terroristes. Et c'est tout ce qu'il accepte comme dénomination. Donc on est dans... C'est un peu une inversion des valeurs. Où les Kurdes sont diabolisés en tant que terroristes par un État qui mène une campagne de terrorisme d'État depuis des dizaines d'années contre une grande population de son propre pays.
Çöne peş perde huynen edi kalem geç çöne jor geç cebine erçer hacı ha.